cela depuis 25 ans maintenant. Philippe donc m'a demandé de présenter cette pastorale puisque donc je suis polonaise d'origine et j'ai connu donc un peu cette pastorale avant de venir en France, pas en tant qu'organisatrice ou mais plutôt comme participante dans ma jeunesse. Donc j'ai essayé de me renseigner, donc je vous donnerai quelques informations. Il y a certainement des choses que je ne saurais peut-être pas vous dire ou répondre parce que je n'y suis pas vraiment sur place. Alors, comme vous imaginez bien, quand on parle Pologne, on pense à quelqu'un cité aujourd'hui. Donc, c'est Jean Paul II, donc Karol Wojtyla, qui est considéré comme celui qui a vraiment impulsé la pastorale du sport en Pologne. Pas forcément par les structures, mais par son attitude, par sa manière d'être. Lui qui donc travaillait beaucoup avec les étudiants, qui était appelé tonton, c'est lui qui les amenait à faire du kayak, à faire du rando, voilà. Et c'est lui qui, à côté de ses moments sportifs, prenait le temps d'être avec eux, de partager sur l'évangile, sur leur vie. De les accompagner, qui a montré voilà, que le sport a tout son sens aussi quand on l'accompagne, qu'il y a ses besoins aussi d'être avec celui qui est sportif. Les sportifs, pas forcément de haut niveau, parce qu'on parle pas des sportifs de haut niveau, mais des étudiants, des jeunes qu'ils côtoyaient, qu'ils rencontraient. Donc voilà, c'est un peu le contexte et c'est vraiment cet héritage de Jean-Paul II qui a marqué beaucoup la pastorale du sport en Pologne. Et puisque donc, c'est Monseigneur qui a dit tout à l'heure, il a considéré le sport comme une école de vie, un chemin de croissance intégrale et qui unisse le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, c'est un peu le départ. Après, voilà, ceux qui connaissaient un tout petit peu l'histoire de la Pologne, c'est vrai que nous avons vécu une période de communisme assez longue et assez compliquée entre les guerres. Donc historiquement, l'Église aussi, elle n'a pas souffert. Elle était plutôt persécutée. Elle s'est jamais, voilà, elle a été persévérante et elle ne s'est jamais laissée faire. Et aussi parce qu'elle a compris, je pense, et qu'elle a essayé de faire, c'est de... pendant cette période de persécution, de proposer des activités qui n'étaient pas d'abord spirituelles, mais qui étaient d'abord physiques. Et lors des camps, des propositions de ce type-là, la notion spirituelle était bien sûr très très présente. Et l'évangélisation se faisait de cette manière-là. Et donc, ça a aussi contribué à développer la pastorale du sport en Pologne. Il y a cette manière de travailler, c'est ce que j'ai connu le plus, puisque c'est comme ça que j'ai appris à jouer au tennis de table, ping-pong. C'est comme ça, c'est avec mon curé de la paroisse, dans les salles paroissiales, sur une des tables. C'est aussi comme ça que j'ai appris à faire du ski, parce que je suis partie en camp de ski avec la paroisse, avec des skis qui étaient rassemblés grâce aux dons, des connaissances. Et donc, on a pu amener les jeunes des foyers avec nous. Et c'est vraiment de cette manière-là que j'ai connu la pastorale du sport. C'est avec la paroisse que j'ai fait mes premières rando. C'est avec la paroisse qu'on allait par des colonies d'été qui duraient... C'était assez intéressant parce qu'on partait 15 jours, donc on vivait ça en rythme du chapelet et en même temps on faisait du sport. Enfin voilà, on partait, on faisait des randos dans les montagnes, on jouait, on faisait du kayak, canoë. Et ça, c'était voilà, une manière de vraiment vivre les deux aspects inséparables. J'ai toujours entendu, j'ai toujours compris dans ma paroisse qu'on ne peut pas les séparer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai aussi grandi. Excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui, comment ça se présente aujourd'hui? Donc, la pastorale des sports, donc, la chute du communisme par les années 89 a commencé à se développer de plus en plus. Et jusqu'à à peu près en 2002, officiellement, il y a donc un évêque qui est responsable de la pastorale des sports et des aumôniers dans presque tous les diocèses. En Pologne, il y a 149 diocèses et il y a à peu près dans tous les diocèses. Dans les diocèses plus petits, parfois il n'y a pas un aumônier de la pastorale des sports, il y a plutôt un prêtre référent ou quelqu'un vers qui on peut aller. Quand on va sur le site de la pastorale des sports en Pologne, sur le site de la conférence des évêques, on peut très facilement aller voir dans chaque diocèse, toutes les diocèses sont répertoriées, et on peut aller, et puis quand on clique, on trouve les coordonnées de chaque responsable, donc chaque aumônier de la pastorale du sport. Donc, ce qui est aussi peut-être un élément facile. Voilà, merci. Pour les trouver. Voilà. Et j'étais aussi marquée parce que c'est noté si tu es intéressé pour être accompagné, si tu souhaites rejoindre une équipe, un groupe de la paroisse, voilà comment tu peux nous contacter. Quelqu'un qui n'a, voilà, qui arrive par l'internet et pas par la paroisse, on pourrait trouver un pastoral de sport. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est un peu voilà, il y a plusieurs aspects. Il y a donc au niveau national, donc il y a l'aumônier qui lui, il a plusieurs charges. Première chose, c'est accompagner les sportifs. Peut-être c'est pas la plus grande, je ne sais pas quantitativement comment c'est. Donc il y a un côté, donc accompagner vraiment les sportifs, sportifs du haut niveau, donc au quotidien, pendant les grands événements. L'accompagnement spirituel tient une très très grande place aussi. Un autre aspect, c'est la pastorale du sport un peu dite paroissiale, parce que c'est celle-là qui est très très développée et qui prend beaucoup beaucoup de place. Et la dernière chose, donc en 2014, toujours à l'initiative de l'Épiscopat, était fondée donc la pastorale nationale des sportifs handicapés. Et donc, il y a aussi cet accompagnement-là qui se vit au quotidien, notamment, donc, il s'agit d'accompagner les personnes, donc les sportifs, et les encadreurs, l'entraîneur, les dirigeants. C'est pas, voilà, c'est assez large. Et il y a un aspect qui me paraît assez important aussi, c'est qu'il me signale que leur rôle, c'est aussi de veiller que les équipements, les structures adaptées aux personnes avec un handicap soient présentes dans dans les paroisses. Donc, comment c'est vécu concrètement, je ne sais pas vous dire. Voilà. Mais effectivement, il y a cet aspect-là qui était souligné. Alors, au niveau des paroisses, alors, il y a plusieurs aspects, donc notamment, il y a mission, donc la spiritualité et formation, ce qui tient une très grande place. Donc, et en fait, il y a des journées qui sont proposées aux jours de réflexion, des retraites pour les sportifs, ça se fait assez souvent pour eux, des retraites pour des sportifs de différents types de sports, des rencontres, des prières, réflexions, et aussi des formations pour les sportifs qui sont proposées par l'Église. Ensuite, bien sûr, pour les aumôniers aussi. Les aumôniers se retrouvent à peu près deux fois dans l'année pour un temps de réflexion et de travail en commun. Ensuite, il y a un aspect qui est aussi souligné, c'est l'intégration communautaire et éthique sportive, qui est aussi travaillée. Donc voilà, on a déjà parlé pas mal de tout ça, donc les valeurs chrétiennes du sport, le respect, solidarité. Et la question de violence, dopage, voilà, l'éduquer sportif et les jeunes qui pratiquent, voilà, pratiquent peut-être occasionnellement le sport aussi à ces valeurs-là. Il y a aussi un volet qui est important, c'est tout ce qui est événement rituel, liturgique. Donc, les pèlerinages. Il y a en Pologne un sanctuaire qui est connu aussi, c'est la Vierge Noire de Częstochowa. Et donc, il y a chaque année un pèlerinage des sportifs. Alors, cette année, par exemple, de ma ville, j'ai vu qu'il y avait un groupe qui est parti en courant. Parce que les pèlerinages sont très connus en Pologne, ça se vit encore actuellement. Chaque paroisse a son pèlerinage à Częstochowa. Il y a certains qui marchent 3 semaines, d'autres qui marchent un jour ou une demi-journée, mais il y a un pèlerinage. Et par ici, voilà, c'est en plus des pèlerinages spécifiques. Et donc là, j'ai vu que par exemple, dans ma paroisse, il y a un groupe des coureurs qui est parti, ça fait à peu près 100 km. Donc ils ont fait le pèlerinage à côté du pèlerinage qui marchait. Bon, bien sûr, les célébrations liturgiques, les messes pour les sportifs, rencontres festives. Il y a beaucoup de tournois. Alors ça, c'est assez connu, des tournois qui se vivent, et pas forcément entre les prêtres. Ça se fait aussi, et beaucoup, beaucoup, parce que, bon, en Pologne, on a encore la chance d'avoir pas mal de prêtres, des jeunes prêtres. Mais aussi des tournois, par exemple, des servants d'hôtel de la paroisse contre l'autre. Mais c'est pas juste un tournoi. Souvent, c'est accompagné par un temps spirituel et un temps paroissial. Ce tournoi-là, il ne se vit pas quelque part, personne n'est pas au courant, peut-être juste les parents. Ça se vit au sein de la paroisse, au sein de la communauté, ou parfois dimanche, il y a la messe, il y a les repas, et voilà. Donc, c'est des tournois qui sont pas séparés de la vie paroissiale. Et aussi, un dernier aspect de la passion des sports qui est beaucoup travaillé, c'est le côté social et solidaire. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je suis partie faire des skis, on a amené des jeunes des foyers, donc les jeunes en grande précarité. Et donc, ça fait beaucoup. Souvent, voilà, je pense que vous savez aussi combien il est difficile pour des jeunes avec beaucoup de précarité, l'accès au sport aussi, en équipement, matériel. Et donc, ça se fait, donc, en Pologne, ça se fait assez facilement quand on les accompagne, on les amène, voilà, au séjour sportif et paralympique. Alors, peut-être juste pour finir, parce que il y a beaucoup d'initiatives, il y a quelque chose qui me paraît important de partager et qui se vit beaucoup en Pologne, qui s'appelle Parafiada. Parafiada, ça vient de la paroisse. C'est la fête du sport. En fait, aujourd'hui, c'est une association qui a été fondée en 92 par une communauté religieuse, par une congrégation des piaristes. Je ne sais pas s'il existe ailleurs qu'en Pologne, mais j'imagine que oui. Et donc, c'est une communauté qui a initié ces rencontres. En fait, c'est dans l'été, pendant une bonne semaine, un peu plus, que les jeunes se retrouvent pour vivre un peu les JO, quoi. Avec à peu près. Alors, je pense qu'il y a au moins 12 disciplines qui sont représentées, si ce n'est pas plus, avec à peu près autour de 700 jeunes qui se retrouvent chaque année pour ce temps-là. Et c'est ouvert aussi aux jeunes de l'étranger. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une organisation qui est assez spécifique, qui intègre un peu plus que le sport en fait. C'est pas juste un camp d'été, mais en fait, il y a trois aspects qui sont très importants, qui est aspect culturel et sportif. C'est les trois piliers. Et l'objectif, c'est de se dire que voilà, qu'il y a le stade avec le sport, l'activité physique, le développement de la santé, discipline, solidarité. Mais il y a aussi l'autre aspect de notre vie qui est aussi la culture, qui sont inséparables, les arts, la créativité, ce qui stimule aussi l'intelligence, le dialogue. Et le dernier élément, c'est le sanctuaire, donc toute la dimension spirituelle, la prière, liturgie, voilà, c'est ce qui nourrit aussi l'âme et la vie morale. Et donc, c'est comme ça que ce temps-là est vécu. Au-delà des compétitions qui sont proposées, donc, il y a des médailles à la fin, voilà, c'est un temps très sérieux, il y a des encadrés, il y a des médecins qui sont présents. Alors, les jeunes, il y a cinq catégories, il y a les jeunes à partir de 8 ans jusqu'à des encadrants peuvent aussi participer à des activités. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce modèle-là qui est enfermé sur l'été, maintenant il est utilisé dans les paroisses. Je parle de ma paroisse d'origine de nouveau. Cette année, on organise la parafiada en paroisse. Et donc, c'est des temps où voilà, les trois piliers sont présents avec le nom de la paroisse. Et chacun trouve sa place. Il y a des mamans qui préparent les gâteaux pour les goûter. Et il y a des équipes voilà, qui fait du foot. Il y a des musiciens qui animent la journée. Et c'est vraiment une fête de la paroisse où le sport trouve sa place. Voilà, il est intégré. Donc, quelque chose voilà, qui était un peu, voilà, on peut dire, enfermé à part, aujourd'hui se développe. Et dans beaucoup de paroisses, on tient cette journée, on en parle, et c'est une journée qui rappelle voilà, le fait que le sport est présent dans notre vie, pas juste dans les stades et quelque part à côté. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. Il y a voilà, juste peut-être, il y a des communautés religieuses qui ont une très grande place. Il y a des associations des différentes communautés religieuses, notamment les Salésiens, qui ont des grandes associations qui font beaucoup d'activités, qui proposent beaucoup d'activités des camps, mais aussi au quotidien. Voilà, je pense que je vais m'arrêter.
Merci Dorota. On va descendre au sud et passer par l'Autriche.
I have to talk in English. I'm sorry, but I'm not that good in French. But I hopefully you understand me. I don't know. Hopefully you understand English and also you understand me talking English because it's a mixture of English and Austrian accent of English. Yeah. Okay, I can talk to you.
Donc, il dit tout simplement, il espère que vous avez compris son anglais, mais au cas où ce n'est pas le cas, je peux traduire.
Yeah, so I'm Johannes Ackner, I'm the sports chaplain in Austria, the ca Catholic sports chaplain, and I'm also responsible for the Olympic and Paralympic Games. I'm the chaplain of the Austrian Olympic and Paralympic team, and I now will talk to you about the Catholic sports pastoral care in Austria. Yeah.
Donc, sa responsabilité au niveau aumônerie, c'est dans l'Église catholique pour l'accompagnement des équipes olympiques et paralympiques d'Autriche, avec lesquelles il est venu aux Jeux de Paris, il y a un an.
Yeah, in Austria we have also, I think it's the same in France, we have a bishop who is responsible for sport within the bishops' conference. And it's Bishop Alois Schwarz of the Diocese of St. Pölten in Austria. And this sports bishop is the official representative of the church, also the sports associations. He is the public voice of the church on sport. He comments on sporting events or debates on sports ethics from a Christian perspective. And he is also responsible for promoting sports ministry in the dioceses. So, the bishop is the sports bishop is the highest responsible for the sports pastoral care in Austria. Yeah, it's the Bishop of St. Pölten.
Donc, il y a un évêque, le Monseigneur Schwartz, qui est désigné responsable de l'ensemble de la pastorale du sport en Autriche et il est d'une certaine manière la voix de l'Église pour toutes les questions de pastorale du sport en donnant une perspective chrétienne au sport.
And in Austria we have nine dioceses, or 10 if you include the military diocese. And seven of these nine dioceses have a diocesan sports association. In Austria it's called Diözesan Sportgemeinschaft. Yeah, so seven out of nine dioceses have their own sports clubs, you can say, yeah. they have their own diocesan sports clubs. And in Vienna, it's a good example, for example. In Vienna, there are 130 church soccer teams. So the church has 130 soccer teams in Vienna. Over half of all teams in the Vienna Soccer Association are diocesan teams. And there are also over 50 soccer fields belonging to the church in Vienna. And also in the field of athletics, there are 200 church athletes in Vienna alone and three sports facilities, one of which is a state-of-the-art sports center and one of the largest in Vienna. So the church has also one of the largest sports facilities in Vienna. It belongs to the church, yeah.
Donc, dans l'ensemble de l'Autriche, il y a 9 diocèses, 10 si on compte l'évêque des armées, et 7 d'entre eux ont leur propre association sportive diocésaine. Si on prend l'exemple de Vienne, il y a 130 clubs de foot dans l'ensemble de la ville et les environs de Vienne, et plus que la moitié sont des clubs catholiques. Et il y a plus de 50 de ces terrains de foot qui appartiennent à l'Église catholique. Et une des plus grandes salles multisports de la ville appartient à l'Église catholique.
And there are also 35 church table tennis teams in Vienna with 170 players. And diocesan athletes have also become Austrian judo champions 3 times. So these church sports clubs are also very successful in Austria. And yeah, so it's...
Juste pour dire que ces clubs produisent beaucoup de sportifs de haut niveau, même des champions du pays.
So I think it's something similar to patronage, I don't know, but yeah, could be. So the idea behind the church sports clubs is that they embody Christian values in a special way, that they strengthen body, mind and soul, and that fairness, respect, cooperation, integration, inclusion are particularly important there. So this church sports club should embody Christian values. And the church sports clubs in Austria were also pioneers in disabled sports in this area, para sports. They were pioneers, the church sports clubs, yeah. Yeah, and the church sports clubs often organize events that are linked to church services and spiritual inspiration. And through these sports clubs, the church demonstrates that sport is very important to the church, you know. And that sport and faith belong together, and the sports clubs also provide an opportunity for the church to reach people through sport who it would not otherwise come into contact with. So people who are far away from the church through the sport and through these sports clubs come into contact with the church. And so it's also possible for the missionary, you know.
Yeah. Donc, ces clubs sportifs au sein de l'Église catholique en Autriche essaient d'incarner les valeurs chrétiennes, par exemple les valeurs de l'inclusion et le respect de l'autre. Ces clubs ont été parmi les pionniers pour tout ce qui est parasport et le sport pour tous. Ils essaient d'organiser des événements sportifs en lien avec des célébrations liturgiques qui accompagne ou lance l'événement. À travers tous ces engagements, l'Église témoigne de l'importance du sport dans la société et dans l'Église. Et pour beaucoup de gens qui participent dans ces clubs ou dans ces événements, c'est pour eux le premier contact avec l'Église et c'est une porte d'entrée pour eux dans un cheminement de foi.
Yeah. But it must be admitted that in practice, and that's a similar problem to sport in Belgium, there's often no difference between these and non-church sports clubs. And many people are unaware that a particular club is a church club. Even people who are inside these clubs, who are belonging to these clubs, they don't know that it's a church club, you know, church sports club. There's no difference between the church clubs and non-church clubs, you know. And most faithful in Austria don't even know that the church has their own sports clubs. So also, I didn't know it before I became church chaplain, a sports club chaplain, you know. So, but I have to admit that in my diocese in Salzburg, there are no church sports clubs. But it's more in the eastern part of Austria, in Vienna, Styria, there are, and in the lower Austria, there are many sports clubs. But most people, and also most faithful, are unaware about this. They don't know it. And what I have to say is that the distinctive Christian element could play an even greater role in these sports clubs. And you have to ask the question, what is the Christian identity of this in these clubs, yeah? And could you strengthen it? How could you strengthen it? The Christian identity. This is for me now is the question. Yeah.
Donc, il dit que dans la pratique, les gens souvent ne sont pas au courant du fait que tel ou tel club fait partie ou est sous la tutelle d'une certaine manière de l'Église. Qu'il n'y a pas dans la vie quotidienne de ces clubs beaucoup de différences dans les pratiques entre les clubs laïcs et les clubs catholiques. Et même les paroissiens de paroisses où existent de tels clubs, eux-mêmes ignorent le fait que ces clubs ont quand même un lien avec l'Église. Il dit que ces liens sont plus forts dans l'est du pays, mais dans sa région à lui, c'est beaucoup moins évident. Donc pour lui, une grande question aujourd'hui, c'est comment rendre plus distinctif l'identité chrétienne de ces clubs et promouvoir l'identité.
Voilà. And in addition, there is a platform in Austria called Kirche and Sport, Church and Sport. And Church and Sport is a platform, an institution of the Bishops' Conference, a point of contact between church and sport, and this institution, church and sport, is a committee. You can think of a committee in which representatives of the diocesan sports community, sports ethicists, and I myself also are involved. And this institution, this committee, Kirche and Sport, it does not organize practical sporting activities like the diocesan sports communities, but it works at a meta level, you know, and organizes conferences on topics related to sports ethics, for example. It participates in public discussions on sports ethics issues, such as doping, fairness, and so on. And this platform, Church and Sports, also organizes courses and training events on topics related to the church and sports. It publishes brochures and handouts, for example, templates for church services at sporting events, texts also on grief work in sport, when someone dies or if there's an accident, you know, how do you react to it, and so there are brochures issued by this platform Church and Sport, yeah. And so Church and Sport is an institution that works at the meta level. But the problem is that we have not so much money, we have less and less money at our disposal. And all people involved in this platform are so busy that there is not as much drive behind church and sport as there needed to be, yeah, you know. So, but it's good that it exists, I think.
Donc, il dit qu'il y a une plateforme nationale Église et sport qui organise des conférences, des sessions, des temps de formation pour ceux qui sont impliqués dans la pastorale, qui produit des documents aussi, par exemple un document pour l'accompagnement de personnes dans le deuil, dans les clubs, etc. Mais qu'il y a un manque de finances et aussi un manque de plus en plus senti d'énergie. Les énergies des uns et des autres commencent à faiblir.
So, and Lastly, some words about my part as a sports chaplain in Austria. So I'm the only sports chaplain officially appointed by this bishops' conference in Austria. But there are, of course, several sports clubs in Austria that also have their own priests. For example, I think of a good football club in Carinthia. It's called VSG. They have their own priest, and this priest always lights a special candle when there's a game of this club, you know. And when they win, the bells ring of the church, you know. So some sports clubs have their own priests, but I'm the only official sports chaplain for the whole of Austria here, appointed by the Bishops' Conference. And I do this on a voluntary basis and alongside also my parish work, you know, essentially in my spare time. So and my job is to be the spiritual advisor of this church and sport platform, and also the spiritual advisor to the diocesan sports communities. This is one of my, it's a part of my job, yeah.
Okay. Donc, Johannes est le seul aumônier officiel nommé par l'Église catholique en Autriche, mais son travail, il le fait bénévolement, dans son temps libre. Un élément de son travail, c'est le rôle de conseiller spirituel pour la plateforme Église et Sport, qui organise les conférences, etc., mais aussi pour le réseau de diocèses, les associations diocésaines. Mais malgré le fait qu'il est le seul officiellement nommé par l'Église, il y a beaucoup de prêtres au niveau local qui ont des liens avec des clubs de sport, par exemple des clubs de foot, et un rôle d'accompagnateur, d'aumônier localement. Il a donné l'exemple d'un prêtre qui a ce rôle dans sa ville pour un club professionnel, qui chaque fois que son club joue, il allume une bougie dans sa fenêtre au presbytère, et quand il gagne, il sonne les cloches.
Yeah, and I'm also in charge of looking after the Austrian athletes at the Olympic and Paralympic Games, but more on that tomorrow then. And I go also to lots of sporting events in Austria and celebrate services and holy masses there. And I also have an important role at the Sport Union Austria. This is the last point I want to talk about. The Sport Union Austria. What is the Sport Union? You have to imagine there are three umbrella sports organizations in Austria. So I think, I don't know if there's something similar in France. An umbrella sports organization is an organization that brings together many sports clubs and associations and represents their interests in politics and coordinates their works, you know. So every sports club in Austria is a member of an umbrella sports organization. So there are three big umbrella sports organizations in Austria. And the Sport Union is one of these three umbrella sports organizations in Austria. And the Sport Union is based on Christian values. They have Christian values in their, they're based on Christian values, yeah. And that is why the Sport Union also has their own chaplain. And that's also my part. And they always hold an advent service, a pilgrimage for athletes, and similar Christian events, where I then celebrate the service. Yeah. And in the province of Salzburg, where I'm from, I'm from Tyrol, but my diocese is Salzburg. Yeah. And there's also, at the Sport Union Salzburg, the special feature that a priest traditionally also sits on the governing body of the Sport Union, and is responsible for culture and values there. So this means that I'm also allowed to be on the provincial board of the Sports Union Salzburg, and there I often attend meetings and want to strengthen the Christian values within the Sport Union. Yeah. So the Sport Union in Austria, these umbrella sports organizations are some of them are linked to political parties, and the sport union is linked to the Christian party in a bit, yeah, and so they have Christian values, yeah.
Il a parlé de trois grands organismes dans le sport en Autriche qui sont l'équivalent des syndicats d'une certaine manière pour les sportifs de haut niveau et peut-être aussi, je pense, pour les amateurs aussi. Et il est l'aumônier d'un des trois qui s'appelle Sport Union. Union, c'est le mot en anglais pour syndicat. Ils organisent des pèlerinages pour les sportifs de haut niveau, des liturgies. Il est le responsable pour ce syndicat au niveau diocésain, mais à travers ça, représente aussi son diocèse au niveau régional. Et ils essaient de promouvoir la culture chrétienne dans un contexte plus lié à la politique que le sport.
So, this is by large what I have to say about sports festival here in Austria, yeah. So,
et puis demain il va parler des Jeux Olympiques et Montréal.
Merci Younes. On va aller un petit peu plus à l'ouest et aller en Suisse, Alexandrine.
Merci, bonjour. Alors pour ma part, je viens de la Suisse et je propose mes services d'aumônerie avec une organisation qui s'appelle Athletes in Action, qui est d'obédience chrétienne, mais pas affiliée spécifiquement à une église. Ça veut dire qu'on travaille vraiment de manière œcuménique avec toutes les différentes églises. Dans le cadre de nos services, on propose donc des services d'aumônerie pour les athlètes de haut niveau, c'est ce que je fais spécifiquement. Donc les athlètes de haut niveau actifs, les jeunes élites et après carrière. On propose aussi des camps sportifs pour les adultes et aussi pour les enfants. Et je vous expliquerai après un peu les deux branches dont on parle à l'international pour ces services-là. Du fait que je suis vraiment spécifiquement dans les services d'aumônerie, je ne suis pas la meilleure personne placée pour vous dire exactement ce qui se passe au niveau de la pastorale du sport en Suisse pour l'Église catholique. Pour ça, je peux vous conseiller la thèse de doctorat d'une chère collègue qui s'appelle Alessandra Maigre, qui est donc doctorante en théologie à l'Université de Fribourg à Lausanne, et qui a fait une thèse l'année dernière intitulée « Les défis de la spiritualité dans le sport, limite, jeu et identité ». Et dans cette thèse, elle traite donc des fondements théologiques pour une pastorale sportive en Suisse. Donc c'est vraiment, je vous encourage, si ça vous intéresse, à vous procurer cette thèse qui est disponible en ligne, mais aussi ce serait la personne idéale pour pouvoir mieux dire ce qui se passe au niveau de la pastorale en Suisse. Moi je suis basée à Lausanne en Suisse, donc il y a le siège du CIO, les comités internationaux olympiques, et la plupart des fédérations internationales sportives. Et donc c'est pour ça que je suis aussi située et basée en Suisse, à Lausanne, pour créer aussi et puis faciliter les liens avec ces instances-là. Donc mon travail est très... je suis beaucoup à l'international en réalité, et c'est là où je veux peut-être aussi vous dire quelques mots par rapport à ce qui se passe au niveau de la pastorale à l'international, ou de ce que je remarque en tout cas dans mes interventions. On a entendu avant à parler des championnats du monde par athlétisme qui ont eu lieu en 2023 à Paris. Je faisais partie du service d'aumônerie à cet événement-là. On était 12 aumôniers internationaux. Et donc, au niveau catholique, c'est Father Bernard de Malte qui nous a rejoint. C'est quelqu'un avec qui je collabore encore aujourd'hui et qui est en train de vraiment développer une pastorale à Malte et au niveau aussi européen. Donc dans le cadre européen, on a ce qu'on appelle la European Christian Sports Union, donc syndicat ou l'Union chrétienne sportive européenne, qui regroupe tous les acteurs dans le milieu du sport. Alors, c'est là que je vais spécifier au niveau international. On parle de e-sports, tout ce qui sont des services en faveur des athlètes et de leur entourage, donc on est dans le sport, Et ensuite, on parle de through sports, donc au travers du sport, toutes les interventions qu'on a vues avant, tous les services qui sont de la promotion au travers du sport, utiliser des événements sportifs pour partager l'évangile. Cette European Nutrition Sports Union organise des conférences tous les deux ans, regroupant tous les acteurs d'Europe, que ce soit pour des services dans le sport ou au travers du sport. Et c'est là où c'est très intéressant de voir que de plus en plus de représentants de l'Église catholique font partie de ces conférences, et notamment dans la dernière conférence de cette année, Father Bernard est venu avec une délégation d'une dizaine de personnes de Malte, où vraiment ils sont en train de mettre en place, de développer la pastorale du sport dans leur pays, mais aussi à l'international. Donc c'est très réjouissant, et c'est pour ça aussi que ça me réjouit. Je suis réjouie d'être là et de pouvoir aussi amener ce que je vois ou l'expérience que j'ai aussi de montrer le menu du sport pour que ça puisse se développer toujours plus. Et c'est vraiment très réjouissant de voir tout ce qui a pu être mis en place pour les Jeux Olympiques de Paris, mais surtout ce qui continuera dans les prochaines années et pour les prochains Jeux. Et pour terminer, j'ai aussi envie de mentionner le fait qu'en Suisse, parce que ça aussi a été mentionné avant par rapport aux différentes compétitions. Donc la Suisse est un pays traditionnellement chrétien, avec des traditions ancrées chrétiennes qui restent fortes, ce qui est une chance, et ce qui nous permet aussi de proposer à différents événements sportifs majeurs. Je peux mentionner par exemple le Tour de Suisse, cyclisme ou le marathon de ski de fond. On peut proposer lors de ces événements des messes avant les compétitions pour les sportifs, et ceci aussi de manière œcuménique, en collaboration avec l'Église catholique et protestante. Donc c'est très réjouissant aussi.
Merci Sandrine. On peut dire un petit mot pour Outre-mer, l'Angleterre, James?
Oui, avec plaisir. Bon, je pense que vous êtes au courant du fait que Pierre de Coubertin, au départ des Jeux Olympiques modernes, s'est inspiré d'une certaine manière du modèle britannique des clubs de patronage et des clubs liés aussi avec les communautés d'ouvriers, les mines, les usines, et que dans le pays à l'époque, on avait compris que les ouvriers en bonne santé, ce sont des ouvriers productifs, et qu'à travers cette intuition, on a utilisé le sport pour un peu améliorer le bien-être de la population. Mais aussi la culture, la musique, la peinture, toutes sortes d'activités. À l'époque, fin du 19e siècle, il y avait beaucoup des clubs professionnels du championnat britannique, clubs de foot, qui ont été fondés, et souvent dans une paroisse, et liés à une église paroissiale. Si je prends l'exemple de ma ville natale de Southampton, sur la côte sud, malheureusement on est en deuxième division cette année, ça ne va pas très mal non plus, mais j'ai assisté à tous les matchs chez moi quand j'étais enfant, c'était une de mes passions, le club de Southampton. Le surnom du club, c'est Les Saints, S-A-I-N-T-S, et c'est parce que le club a été fondé par la paroisse Sainte-Marie, à la fin du 19e siècle, donc le surnom c'était Les Saints. Et le stade actuellement, c'est le stade Sainte-Marie, St. Mary's Stadium. Donc ce lien avec l'église, chez nous donc, par le foot, ça existe toujours, même si ce n'est pas toujours très explicite. Mais je viens de regarder au niveau statistique, sur les 92 clubs professionnels des 4 premières divisions en Angleterre, il y en a 72 actuellement qui ont un aumônier. Je pense que beaucoup d'entre eux, comme Johannes, sont des bénévoles, mais il y en a quand même qui sont salariés. La plupart de ceux qui sont salariés, c'est nos amis protestants, parce que chez les protestants en Grande-Bretagne, il y a depuis longtemps déjà une professionnalisation de l'accompagnement sportif. Et il y a deux grands mouvements qui assurent cet accompagnement. Il y a Sports Chaplaincy UK and Ireland, donc pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande, mais qui a des branches aussi en Australie et d'autres pays anglophones. Et là, actuellement, il y a plus de 250 aumôniers qui ont été formés par cet organisme pour travailler dans les clubs de sports différents. Et ensuite, il y a un autre organisme, The Christians in Sport. Et celui-là, le but est plutôt d'accompagner et de former les sportifs eux-mêmes. Donc, les sportifs peuvent aller sur le site de Christians in Sport pour des réflexions, des ressources pour des prières, pour des invitations à des événements pour les sportifs eux-mêmes. Et donc, il y a ces deux grands volets. Au niveau de l'Église catholique, dans les dernières décennies, il y en a qui ont été formés par Sports Chaplaincy UK, mais pas beaucoup de catholiques. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître un prieur franciscain à Southampton quand j'étais de retour dans ma ville natale en 2009, parce que j'ai passé beaucoup de ma vie en tant que professeur en collège-lycée à Liverpool, une autre ville très sportive. Mais au retour à Southampton en 2009, j'ai eu le plaisir de rencontrer ce franciscain qui venait prendre sa retraite comme aumônier du club de foot de Southampton. Et à travers lui, j'ai pu rencontrer d'anciens joueurs, anciens entraîneurs. Et c'est lui qui m'a encouragé à candidater comme aumônier pour les Jeux de Londres en 2012. Parce que je lui ai raconté mon expérience en club cycliste à Liverpool, où j'étais licencié depuis plus de 20 ans. Et je lui ai dit qu'après 12, 13 années de participation dans le club comme cycliste, je n'avais pas le rôle d'aumônier, il y avait un décès dans le club. Un membre du club est mort dans un accident. Et spontanément, la famille de mon ami qui est décédé m'a contacté pour animer les obsèques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il voyait en moi quelqu'un qui avait potentiellement le rôle de l'aumônier. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir dans les rapports avec les uns et les autres que leur manière de me parler changeait à partir du fait qu'ils m'ont vu animer cette liturgie. C'était une expérience très intéressante. Et au fil des années, 4-5 années après, j'ai animé 4 obsèques. Le dernier, c'était en 2016 pour la mère de Chris Boardman, qui est grand champion cycliste britannique, 5 fois porteur du maillot jaune, champion olympique en 82 à Barcelone. Et c'était quelques jours avant son départ pour Rio comme commentateur à la télévision britannique. Et toute cette expérience, c'est quelque chose que j'ai vécu très humblement parce que ils m'ont demandé plein de choses et je me sentais un peu débordé par ce qu'ils me demandaient de faire, mais j'ai fait le mieux possible. Et c'était grâce à quelque chose que j'ai pensé à une des paroles du père Vinclay que notre ami a cité ce matin, quand il a parlé du fait que il voyait le rôle ou son rôle, ce n'était pas par la participation dans le sport. Moi, je suis venu au rôle d'aumônier par la participation. Et pour moi, j'ai eu la chance de cette proximité de sportif à sportif, de vivre en frère et sœur avec votre sportif. Et j'ai toujours essayé de garder ce rôle. Et je pense que ma vocation de frère, ça m'aide dans ce sens parce que vivre en tant que frère, c'est vivre la fraternité avec tout le monde. Et donc, j'essaie de le faire à ma manière dans mon rôle d'aumônier, que j'ai eu la grâce de pouvoir vivre aussi à Paris il y a un an.
Merci James. Alors on va revenir un petit peu en France. Alors moi je ne reprendrai pas l'histoire de la pastorale du sport en France parce qu'on y reviendra demain. Père Gilles Morin nous parlera un petit peu de la FSCF, on évoquera aussi un petit peu Luxem. Alors ça s'est développé en France au 19e et 20e siècle. On a eu, on va dire, un petit basculement avec, alors c'est pas à cause de Vatican II, mais on a eu une époque où les évêques français pensait que le sport n'avait pas d'intérêt alors qu'il était en train de se développer, qu'il fallait tout mettre sur l'action catholique. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de prêtres qui ont été retirés des associations de la Fédération sportive et culturelle de France, des patronages, etc. Et ils disent, en France, elle a été moins présente auprès du sport. Mais des initiatives vont se mettre en œuvre, et notamment dans les années 2000, avec notamment les PDVTT qui vont se développer en France. Moi, j'ai grandi un petit peu dans le sport et dans la foi. Et moi, j'ai entendu aujourd'hui qu'on parlait que j'étais un des pionniers de la pastorale du sport en France. Alors je modifierai, c'est le père René Pichon, qui est prêtre du diocèse de Chambéry, qui est vraiment le pionnier de la pastorale en France. Alors peut-être je ne vais pas te dire que j'ai été un des artisans pour la mise en œuvre. Il avait déjà réfléchi à une pastorale du sport, mais il n'avait pas réussi à la structurer. C'est vrai que moi j'ai eu la chance, quand j'ai été ordonné prêtre, notamment que le directeur de FCF Clermont me propose d'animer une chronique sur le sport sur la radio pendant une année. Donc ça m'a permis d'approfondir un petit peu ces liens entre le sport et la foi. Et c'est vrai que quand le pape Jean-Paul II a créé une section Église et sport au Vatican, quand un an après mon évêque m'a demandé d'être aumônier départemental de la Fédération sportive et culturelle de France, j'ai dit je veux bien, mais moi je veux monter un service diocésain de la pastorale du sport. Donc, comme il voyait que je ne lui demandais pas plus que ça, il m'a dit tu me fais un projet, et puis si ça va, on lance. Et donc le projet a été lancé, donc j'ai mis en place une équipe, on était 5 à l'époque, donc il y avait un président de club de foot, il y avait une membre de la FSCF et puis deux profs d'EPS de l'enseignement catholique. Et donc on a un petit peu essayé de voir comment on pouvait faire des propositions au niveau de notre diocèse. Sur notre diocèse, à l'époque, il n'y avait plus que de la FSCF. Et donc on a essayé de relancer l'UXL, donc la Fédération sportive de l'enseignement catholique. On a aussi aidé à fonder un PDVTT. Au niveau du XL, on a eu la chance, comme on était au niveau régional, on s'était un petit peu développé. On a organisé les deux premiers championnats de France de golf XL. Et à cette occasion-là, j'avais fait différentes propositions, notamment on avait fait des temps de prière, mais j'avais fait aussi les 10 commandements du golfeur. Et donc il y a des membres du XL qui ont dit, bah, lui, on va peut-être le récupérer au niveau national. Donc c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe de la pastorale au niveau du XL national et que j'ai rencontré Gilles Lecoq qui ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Et dans ces rencontres, on s'est dit, il est peut-être, ça devient peut-être intéressant de mettre en œuvre mon idée à la base qui était d'avoir des services diocésains de pastorale du sport dans tous les diocèses de France qui soient en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc on s'est dit, on va essayer de réunir, parce qu'on sait qu'il y a des passionnés un petit peu dans différents diocèses, même s'il n'y a rien de structuré. Et donc on a lancé en 2013 un premier congrès national de la pastorale du sport, qui a permis à plein de passionnés de se retrouver. On avait fait sur le même système. Et moi, je dirais que ce qui a été vraiment le déclic, c'est après le premier pas. On a commencé avec la messe. On a eu le premier pas et j'ai dit après le premier pas, c'est gagné. Parce que le premier pas, on a passé presque plus de temps. Parce que tous ont pu partager leur passion. Il y a le père Pichon, il y a le père Bruno Sautron, enfin plein d'autres. Et donc, plein de passionnés qui se retrouvaient ensemble et qui n'étaient plus seuls. Et donc, c'est à partir de là qu'on a continué un petit peu cette dynamique avec des projets qui se développent. Les PLVTT se sont développés en France. On a essayé de créer des liens, de susciter de nouveaux acteurs. Et puis au fur et à mesure des congrès nationaux, on s'est développé. J'ai mis en place le site églisesport.fr qui était une volonté d'avoir une base avec beaucoup de témoignages, d'éléments de formation, etc. Et en étant en contact avec le Vatican, puisque à l'époque, avec Santiago Pérez de Camino, qui avait vu mon travail sur mon site en disant bah, c'est bien, continue, notamment sur les traductions des textes des papes en français. Donc on avait des bons contacts. Et ce qui a fait qu'en 2020, une délégation française passait au Vatican avec des évêques et la délégation s'est fait choper par Santiago qui a dit c'est pas normal, en France il n'y a pas de structure nationale, donc il faut faire quelque chose. Et donc en septembre 2020, la conférence des évêques de France a mis en place un groupe de travail Église et Sport, donc il y avait Gilles Lecoq, il y avait aussi Pascal Balmont et le père Alain Bayard. Donc on a travaillé pendant 4 ans avec notamment la réalisation d'un document épiscopat, qui est un document pour les évêques pour parler du sport. Et puis il y a eu donc les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivaient, donc il y a eu l'association Ligienne qui a pris en charge tout particulièrement cette proposition. Isabelle nous l'a développée tout à l'heure. Et en septembre 2020, avec la réorganisation de la conférence des évêques de France, un service de pastoral du sport a été officiellement mis en place. Donc dans l'équipe, il y a Isabelle, il y a Sophie Cher qui n'est pas là tout de suite. Elle est planquée derrière. D'accord. Et donc on est accompagné par Monseigneur Gaudillard. Voilà, donc l'objectif de la pastorale du sport au niveau de la conférence des évêques de France, c'est de soutenir les diocèses pour la mise en place de la pastorale du sport en prenant entre guillemets la dynamique des délégués des Jeux, puisqu'on avait 33 diocèses qui avaient des délégués. Donc on a passé un petit peu l'année dernière à solliciter tous les diocèses. Donc on était avant les Jeux, on était 2 diocèses à avoir une pastorale du sport. Maintenant, ça s'est mis en œuvre. On a James, on a le père de Brice. Voilà, donc on a plusieurs diocèses. On a des diocèses où il y a déjà des lettres de mission et puis d'autres équipes qui sont en train de réfléchir. Voilà, donc on a une douzaine de diocèses qui sont en route. Il y en a d'autres qui se posent des questions, d'autres qui ont des acteurs mais qui n'ont pas encore trouvé leur responsable. Et puis il y a aussi des diocèses qui n'ont toujours pas compris. Ah, je dirais plutôt des évêques. Voilà, mais voilà, donc on continue d'avancer et voilà, d'avoir cette perspective et de pouvoir prendre exemple sur de nombreux pays comme la Pologne, voilà, pour avoir à terme pas simplement un responsable, mais d'avoir des équipes, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir être au service à la fois des sportifs et de ceux qui les accompagnent, que ce soit les sportifs professionnels ou les sportifs amateurs, voilà, donc avec à la fois les services diocésains de pastoral du sport, le service national et puis Oligens qui accompagne sur les projets. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau des... Je vais laisser maintenant la parole à Philippe qui va nous parler un petit peu de Metz.
C'est vrai qu'en entendant l'ensemble des interventions, que ce soit sur le passé, comme la dynamique d'avenir, plus les exemples qu'on a entendus autour de nous, ça donne quand même, je dirais, de l'espérance, en tous les cas, une vraie vision de ce qui peut être mis en place. Et c'est vrai qu'on parle, on est parti de, on va dire, d'exemples à l'international pour arriver jusqu'à Clermont, enfin en tous les cas sur le plan national, puisque tu as surtout évoqué le déroulé de l'installation de cette réalité du sport sur notre territoire. Je voulais juste vous présenter en quelques mots ce qui a été mis en place donc sur le périmètre du diocèse de Metz, la façon dont ça s'est mis en place. En fait, c'est quelque chose de très récent. Je n'ai pas l'air comme ça, mais cette pastorale est très jeune. Et elle a vu le jour en septembre 2023. Et on va dire que ce n'est pas par hasard que ça s'est mis en place de cette façon-là, puisque c'est vrai qu'il y avait la perspective des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est d'une part d'avoir une feuille blanche, d'avoir un beau projet sur plan national, d'avoir un beau projet avec les Jeux Olympiques sur Paris. Mais pour s'installer comme ça sur un diocèse, il y avait deux difficultés. La première, c'est que les services étaient déjà en place, hein, tous les services. Et on s'est dit, mais pourquoi une pastorale du sport? À quoi ça peut servir? Alors c'est vrai qu'on a une partie des réponses là cet après-midi, mais on s'est posé la question pourquoi. Et donc la deuxième chose qui s'est posée, c'est également l'implication des prêtres. Il n'était pas possible d'envisager un développement d'une pastorale du sport simplement avec une pensée d'un laïc Ils souhaitent mettre en place une stratégie de développement. Il fallait convaincre. Ce qui fait que dans une première étape, le premier travail qui a été effectué, c'est de rencontrer l'ensemble des archiprêtres et d'évoquer le projet. Donc ça a été une discussion importante et qui m'a été proposée lors de plusieurs réunions. En tous les cas, ça m'a amené à avoir une vision de ce qu'on pouvait mettre en œuvre ensuite sur les territoires. Alors ça, c'est le premier point, je reviendrai après sur ce point-là. Le deuxième, c'est réellement de travailler sur des actions de terrain qui reprennent, on a parlé des valeurs et des vertus, du lien qu'il y a entre le sport et la foi, et donc des actions de terrain comme des activités d'initiation au parasport ont été mises en place, des initiations avec des jeunes valides, mais où ils ont appris à encadrer des jeunes en situation de handicap. Et ça a donné lieu à un événement global qui, ma foi, a très très bien fonctionné. Ensuite, on a évoqué, je ne vous donne pas ça comme ça dans l'ordre, mais simplement pour vous dire comment on a cheminé sur l'année 2024, c'est sur un temps de mémoire. Souvent, on fait des commémorations, et je me suis dit, pourquoi pas rentrer peut-être dans une commémoration qui nous ressemble un peu plus. Et donc, on a rendu mémoire à notre premier sélectionné olympique, un monsieur qui est enterré dans un petit village au fin fond de la Moselle, qui a eu la particularité de représenter la France au lancer du marteau, ce qui n'est pas banal, pendant aux Jeux de Berlin, ce n'est pas banal non plus. Et la chance qu'on avait, c'est qu'en fait, on avait un lanceur de marteau en préparation des Jeux, qui était déjà un athlète de haut niveau et qui allait participer à ces Jeux et qui était présent. On a fait venir sa famille et on a pu mettre en place une opération événementielle qui a rapproché le sport et l'église et ça a super bien fonctionné. La municipalité a joué le jeu, etc. On s'est retrouvé un peu dans les processions comme à l'époque avec beaucoup, beaucoup de monde. On a travaillé sur une collecte de basket sur un principe très simple, c'est de rentrer dans les établissements scolaires, de solliciter les gamins pour donner une paire de baskets parce qu'ils ont souvent une, deux, trois paires en trop, où les pointures sont plus du tout en adéquation avec la taille de leurs pieds, ou bien c'est plus à la mode. Et en fait, dans ces établissements, c'est devenu, je dirais, une mobilisation qui nous a amené d'abord à expliquer les fondements du lien entre l'Église et le sport et la foi, et à partir de là, de mettre en place un projet plutôt tourné autour de la fraternité, de comprendre ce que c'est un donateur, ce que c'est un bénéficiaire, et puis à travers ces baskets, également demander aux donateurs de laisser un message dans la paire de baskets pour que celui qui va l'avoir l'utilise pour faire du sport. Parce qu'on a aussi vocation à développer l'activité physique. On est également des promoteurs de l'activité physique. Et donc ça a également été une mission importante sur l'année 2023. Puis il y a eu le carême à domicile. C'est la rédaction d'un document qui est utilisé ensuite dans les familles sur des rendez-vous réguliers avec des temps de réflexion, de lecture et qui a tourné autour du sport, du mouvement, un carême en mouvement. Et donc, l'idée d'avoir un slogan du style des résultats, enfin, en tous les cas, de se mettre vraiment en situation d'activité, on s'est engagé sur une marche quotidienne pendant le carême, donc pendant 40 jours. Eh bien, je suis allé à la rencontre des prêtres tôt le matin, parce que le père Pascal Girard adore d'ailleurs, je pense, que ça on se verra. Voilà. Il n'a pas compris pourquoi il est rentré dans sa chambre, c'était marqué Bienvenue en enfer. Mais on verra ça jeudi matin. En tous les cas, démarche qui donc était très matinale, mais qui nous permettait, sur 45 minutes, une heure, des fois un peu plus, de partager, vous savez, quand on est en pèlerinage, quand on se parle, vous n'imaginez pas tout ce qu'on est en capacité de se dire. C'est très étonnant. Alors on peut parler, on peut démarrer par la parole du jour, mais il y a plein d'autres choses. Et en fait, ça m'a permis, dans la foulée, de pouvoir faire des posts Facebook réguliers, etc., de pouvoir communiquer autour des propos qui ont été tenus, et c'était profond. Alors j'ai fait une photo avec le monsieur qui est avec un Holy Games, un t-shirt. Alors je dis le monsieur, c'est un père, un père qui a 92 ans, et je vous assure que j'ai été impressionné par sa qualité, enfin sa capacité physique. il va marcher tous les jours et c'est très encourageant pour la suite. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un carême en mouvement, mais j'étais aussi dans un carmel en mouvement où j'ai également promu l'activité physique. Alors, c'est fou parce que si on doit s'imaginer un carmel, on est quand même dans une logique cloîtrée, enfermée, etc. Eh bien, ça a été très, très bien reçu et j'ai pu également développer des activités physiques et sans être enfin, en décalage complet, j'ai pu voir une sœur en maillot de bain, mais sur une photo, c'est une sœur italienne qui avait pratiqué la natation il y a très longtemps et je l'ai vue sur un podium, elle m'a montré une vieille photo, elle m'a dit « Est-ce que tu me reconnais ?» Je l'ai reconnue tout de suite. Alors, pas à cause du maillot de bain, évidemment, mais en tous les cas, je l'ai reconnue tout de suite physiquement et c'était extraordinaire et ça l'a réveillée, elle s'est dit effectivement, je me suis bougé quand j'étais petite et le fait de les mettre en mouvement, ça a été quelque chose d'assez révélateur. Et puis ensuite, on a travaillé sur une veillée où clairement on a pu compter sur Monseigneur Ballot. Alors c'est la photo simplement des gens qui sont intervenus, hein. Ce n'est pas les gens les plus importants, mais vous avez d'un côté Sylvain Kasseldutsch qui était international en football et qui donc a été le capitaine du FCMS. Il a joué aussi à Saint-Étienne. Mais sa carrière, il l'a fait vraiment au FCMS. Alors, tu parlais tout à l'heure du Saint, le club Saint. On est le club du FCMS est implanté au Saint-Symphorien. En fait, même si je crois que c'est un martyr lyonnais, il est réellement présent également à Metz. On a le président du comité départemental handisport qui est à côté de lui. L'évêque, vous le reconnaissez évidemment. Et puis, donc, de l'autre côté, le plus grand qui est à mes côtés, c'est Julien Bouter. Un ancien joueur de tennis professionnel qui était très très performant, enfin qui était un garçon hyper doué dans sa discipline et qui est aujourd'hui le patron du Moselle Open, d'un grand tournoi. Très rapidement, toujours 2024, il y a eu l'aumônerie. J'ai eu la chance de vivre ce temps-là où on voit quelques photos avec des aumôniers, où on voit, alors on ne la voit pas ici, non, la croix que tu évoquais tout à l'heure qui est passée de Paris à Rome. Et ce moment qui nous a permis de mettre en place un podcast, l'Église au milieu du village, c'est un titre simpliste mais qui donne bien le ton de ce qu'on a pu vivre au village olympique. Je le répète assez souvent, mais c'est vrai, on dit souvent que le monde est un village, mais là c'est le village qui est un monde. Isabelle a raison, c'est pas une parenthèse. On est arrivé dans un temps suspendu où on a compris que globalement, les gens pouvaient s'entendre dès lors qu'ils étaient en mesure de se parler. Et on l'a vécu ensemble, et donc on s'est retrouvé vraiment sur ce temps de fraternité qui donne beaucoup d'espoir, d'espérance sur la suite. Et c'est là où je me suis posé la question, en fait, si le sport, c'est pas un outil de paix, et on en parlera certainement demain soir, mais enfin, en tous les cas, c'est un outil extraordinaire qui permet de rassembler. Et donc, je ne veux pas rentrer dans le côté émotionnel, mais en tous les cas, on ne sort pas indemne d'un temps de partage de cette nature. Alors, quand je vous dis tout ça pour ça, ça veut dire que j'ai fait une année un peu hyperactive parce que j'étais dans l'obligation de dire la pastorale du sport, ça vaut le coup, c'est intéressant, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on arrive à bouger ensemble. Alors, je vais vous reprendre en quelques mots tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit donc pour les archiprêtres que je les ai rencontrés, mais vous avez vu que des kilomètres que j'avais noté, en fait, c'est les kilomètres entre Jérusalem, Bethléem, 7 kilomètres, Nazareth, 17 kilomètres entre Nazareth et Mont-Tabor, jusqu'à Nazareth, Jérusalem, 147 kilomètres. En fait, c'est les kilomètres que faisait Jésus à pied. Et quand un prêtre me dit « Je veux ressembler au Christ », je dis à Pascal « Viens, jeudi matin, marchez avec nous. Viens marcher avec nous. Je veux ressembler au Christ, commençons à marcher ensemble. » Ensuite, sur l'initiation au parasport, eh bien, c'était dans une volonté, on va dire, transversale, puisqu'on a travaillé avec Véronique, avec la pastorale de la santé, la pastorale du handicap, Claudine est là aussi, Claudine. Où effectivement, une pastorale du sport, ce n'est pas quelque chose qui est en lévitation dans un diocèse. C'est une organisation en lien de façon transversale avec les autres services. Je pense aussi au service communication, parce que j'ai raconté, vous voyez, la belle image qu'on a ici, J'ai raconté que c'était moi qui l'avais fait, j'avais même peint au rouleau, ce qui est largement impossible. C'est bien le service de com et je remercie Marc Taillebois pour tout le travail qui est fait par lui et son équipe. Oui, Marc, en tous les cas, on sait faire du beau et c'est parce qu'on a des services autour de nous. Sur la mémoire, sur le temps de mémoire, eh bien, c'est pas simplement un temps comme on le fait au quotidien quand on le fait dans une municipalité. Il y a eu un temps de messe, il y a eu un temps de recueillement sur la tombe de ce premier sélectionné olympique, et on voit que ça peut matcher, que ça fonctionne. Et puis, sur les baskets, alors, 1924, 19024, c'est un peu ambitieux. Enfin, 1924, paire de baskets, l'objectif était 2024. Vous voyez, c'est comme ça. Enfin, en tous les cas, ça a permis de distribuer donc près de 2000 paires de baskets à des enfants sur le territoire de la Moselle, des baskets pour faire du sport, avec un message fraternel. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose que je n'ai pas imaginé en fait. Et je vois Dorota qui travaille au service de la charité, c'est grâce à ces services qu'on a pu distribuer aux bonnes personnes ces paires de baskets. Enfin, je parle du carême à domicile. Ça a été un carême qui a permis de sensibiliser au mouvement. Ça a été 40 jours de podcast aussi, puisque donc, comme je vous le disais, chaque temps était un temps de discussion et qui était ensuite retraduit dans le cadre d'un podcast. Donc, un carême, 40 jours de communication, de messages de cette nature. Alors là, je parle et je finis par le village olympique. Alors, vous voyez, j'y ai associé les sœurs du Carmel, mais pas seulement. J'aurais dû y associer, mais je n'avais pas de photo des gens, Claudine, de l'EHPAD. Alors, je fais le lien entre les sœurs et l'EHPAD, tout simplement parce que dans notre diocèse, on a invité, grâce à nos relais, à récupérer des messages de nos sœurs du Carmel, mais également des personnes en EHPAD, des messages pour les athlètes. Alors, des athlètes, des fois nominativement ou de façon anonyme, des messages d'encouragement, des prières que j'ai pu amener au centre multiprofessionnel, que je mettais dans le livre du jour ou que je pouvais afficher, il y en a certaines que j'affichais et d'autres que j'arrivais à distribuer. On n'avait pas trop le temps d'être dans le village partout, mais enfin, en tous les cas, j'ai le souvenir qu'une des sœurs est d'origine luxembourgeoise et que j'ai pu amener quelques prières pour l'équipe luxembourgeoise dans la délégation, puisque les bâtiments ont été identifiés de cette façon-là. Voilà. Donc, j'ai été un messager du diocèse dans le village et c'est un beau métier. Et la perspective, c'est d'abord se laisser aspirer avec Holy Games, avec ce qui va se passer au niveau de la CEF, se laisser aspirer par cette volonté, par cette dynamique qui va être mise en place. Alors, les deux dossiers les plus longs qu'on va mettre en place, c'est les patronages. Alors, Cédric est présent et demain, Esprit Patronage interviendra. On souhaite réellement développer les patronages sur le territoire du diocèse. On a un patronage qui existe à Thionville et on a fait la tournée avec notamment le mouvement Esprit Patronage. On a 4 à 5 paroisses qui ont un intérêt pour le développement de ce dispositif. Donc, c'est encourageant. Et donc, ça nécessite la mise en place d'une dynamique, de la stratégie, de la méthodologie. Donc, on va accompagner ces démarches-là et on souhaite que ce soit contagieux. Le deuxième point, c'est l'aumônerie du sport. Développer l'aumônerie du sport. J'aimais développer une pastorale du sport sur l'archipétré. Ça, c'est après. L'aumônerie du sport, c'est essentiel. Et je m'en suis rendu compte au village olympique. Un aumônier, ce qui manque en fait dans les parcours de performance. J'ai failli fourcher. Parce qu'en fait, on est passé des années 2000-2020 de la performance à la haute performance. Et Mgr Ballot a parlé du côté un peu excessif des pratiques sportives. Parce que si je vous montrais du doigt la hauteur du record du monde du saut en hauteur du Cubain Santomayor, c'est des performances inhumaines. La vitesse de déplacement en longueur, c'est inhumain. Donc, ça nécessite des entraînements inhumain. Ça nécessite des temps de vie inhumains. Et donc, à partir de là, je pense que l'Église a sa place. Et donc, j'ai une autre casquette, celle d'un président de syndicat des sportifs de haut niveau, l'Union nationale des sportifs de haut niveau, l'Union, qui est un syndicat. Et on finalise un programme de recherche avec le laboratoire de recherche de l'INSEP, laboratoire de sociologie, sur la problématique des risques psychosociaux. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des psychologues du sport, des préparateurs mentaux, et on est toujours dans la logique de performance. Et je pense qu'on a basculé dans l'excès et qu'on doit revenir peut-être à quelque chose de plus juste et qui est porté souvent par l'Église, qui est plutôt la perfection. Et je suis convaincu que la mutation qui est celle de se dire que je suis plutôt sur un parcours de perfection qu'un chemin de performance, bien ça change les moyens qu'on va mettre en œuvre et notamment toute l'humanité qu'on doit mettre en place dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc l'aumônier du sport, c'est important. Notre point d'entrée, ça va être les établissements d'enseignement catholique où il y a des sections sportives. Ce sont les futurs champions. Et si on arrive à les suivre, on sera aux portes des clubs, aux portes des centres de formation, aux portes des pôles. Et donc, on va dire à un étage de l'INSEP, mais on est en train de préparer cet étage-là et c'est rassurant. Et donc, c'est cette activité-là qu'on souhaite implanter, puis après, le déployer également ailleurs. Et enfin, quand on parle du développement de la pastorale du sport sur le diocèse, ben c'est mener une activité de développement territorial. Donc on a un premier point d'appui depuis quelques semaines. Marie m'accompagne et va avoir une responsabilité sur un territoire qui est celui d'Ars-sur-Moselle. On a également toujours un travail à destination des prêtres. Alors c'est un travail individuel, mais de sensibilisation à l'activité. Il est important effectivement qu'ils puissent vivre le sport, on dit toujours, parce qu'on attend d'eux qu'ils soient bons. Donc comme je dis souvent, pour être bon, il faut être bien. Et donc le sport, c'est réellement un bon outil pour que le prêtre soit bon. On a déjà une deuxième promotion de propédeute où on met en place de l'activité. Et donc j'ai installé ce temps avec beaucoup de plaisir et heureusement ça a été partagé. Et donc on remet les couverts pour cette année. Et puis le 16 en fin de journée, le 16 en fin de congrès, pendant le temps de comment dirais-je, le temps de recueillement et de prière, le moment de prière qui va être proposé, j'ai invité les collaborateurs de la maison diocésaine de nous rejoindre. Vous allez ensuite déjeuner et avec Cédric qui est présent, on va leur proposer un programme annuel d'activité physique. Parce que c'est le premier qui dit qui est. Enfin, je n'ai pas trouvé mieux, mais on se comprend. Mettre en route une vraie activité ici. Voilà. Et puis, j'ai finalisé par le Congrès européen de la pastorale du sport qui est en train de se réaliser, premier jour. Pour nous, ça va être un moyen de communiquer, mais un moyen également de développer, un moyen de partager les bonnes recettes pour arriver sur le diocèse de Moselle, les bons codes. Voilà. Et je terminerai simplement par un dernier point. Alors, vous connaissez beaucoup de ces gens, je suppose. En tous les cas, c'est une photo qui a été prise, en 2020. En 2020. Alors, il y avait le Covid, mais il y avait quand même le congrès national de la pastorale du sport du côté d'Orsine. Et donc, je vous ai mis un petit texte que vous pouvez lire. Mais c'est dans l'idée que tout ce que nous sommes vient d'un don, d'un héritage. Et donc, souvent on dit de façon simpliste, pour marquer un but, il faut une passe. Et c'est ce que le père Pascal Girard a su faire. En 2020, il m'a fait la passe. Et j'étais un peu long, mais ce n'est pas de ma faute. Il y a eu des choses qui se sont déroulées. Il y a eu effectivement le Covid, mais il y a eu un changement, des changements à la tête du diocèse. On a eu deux évêques successifs, ou même trois, dans un temps très court, donc ça a été compliqué. Mais en tous les cas, on s'est accroché. Et puis, comme je vous l'ai dit, depuis 2023 à septembre, on est en route. Et nous, ce qu'on espère, c'est que ça donne également de l'inspiration pour tous ceux qui ont des projets dans leur paroisse, mais dans leur diocèse, et qu'on est à leur disposition pour les accompagner, Pascal Girard en premier avec toute l'expérience qu'il a, et puis moi avec ma naïveté, avec peut-être le dynamisme qu'on peut avoir quand on est encore adolescent, puisque je le suis. Voilà. Merci pour votre attention et donc ce que